Voilà. Il y a un an environ, aux Jeux Olympiques de Tokyo, nous sommes la demi-finale féminine du 1500 mètres en athlétisme. Qui s'en souvient? Personne. Nous sommes le dernier tour et deux coureuses chutent, se prennent les pieds les uns dans les autres là. Elles chutent, on est à un tour de l'arrivée et elles tombent. Parmi elles, la favorite, une néerlandaise. Catastrophe. Catastrophe. On entend les, si vous retrouvez la vidéo sur YouTube, on entend le commentateur qui crie. Alors que donc c'est une Kenyane et une Néerlandaise. La Kenyane, qui est tombée, elle est tombée un peu plus forte, et elle met plusieurs secondes à se relever. Ça, c'est la douleur ou le choc. Et la Néerlandaise, Sifan Hassan, elle se relève tout de suite, et elle reprend sa course, et petit à petit, elle rattrape le groupe, et elle finit même première de sa demi-finale. Elle qui s'était tombée. Et la Kenyane, prise dans la chute, elle va jamais finir par rattraper le groupe, et elle va finir bonne dernière. Quelle différence de destin entre deux coureuses, entre deux sportives prises dans une même chute. L'une a perdu, l'autre a gagné. Une même chute, mais deux destins complètement différents. Une même chute, mais deux destins complètement différents. Et ce matin, nous allons voir non pas deux sportives, mais deux hommes, deux disciples, pris dans une même chute. Pris dans une même, celle de la trahison envers Jésus. Mais deux disciples pris dans une même chute, la même galère, mais dont le destin va être complètement différent. Ce sera nos deux premières parties. Et pourquoi donc deux destins différents? Nous le verrons dans notre troisième partie, avec la clé de leur destin différent. Dans le cas, une tristesse du monde qui mène à la mort, et dans l'autre, la tristesse selon Dieu qui mène à la repentance et à la vie. Une même chute, mais deux destins différents. Alors, à vos marques, prêt, feu, parti. Première partie donc, premier disciple que nous allons suivre, vous l'avez peut-être compris, disciple, donc alors vous avez les feuilles, donc forcément tout suspense est tué, mais le premier disciple que nous allons suivre, c'est Judas. Judas dit l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Mais avant d'en arriver à cet épisode-là, qui est plutôt à la fin des évangiles, ben Judas, il avait été un coureur comme les autres, un disciple comme les autres. C'est d'ailleurs Jésus qui avait aussi choisi Judas en tant que disciple, tout comme il avait choisi Pierre, Jean, Jacques et les autres. Cela veut dire que Judas, ben il était là quand Jésus a fait le sermon sur la montagne, quand Jésus a donné différentes paraboles, quand Jésus a annoncé la première fois qu'il allait mourir et ressusciter. Judas, dans un sens, était un vrai privilégié pendant 3 ans d'être à côté de Jésus. À ce moment-là, impossible de se douter de la suite. Et les évangiles mettent souvent le focus sur quelques disciples, mais dans la plupart, en fait, on a assez peu de détails. Et Judas fait partie des disciples sur lesquels on a quasiment zéro détail jusqu'à la toute fin. Donc, il était là. Il y a seul l'évangile de Jean qui nous raconte un court épisode, juste avant la Pâque, qui montre qu'il y avait quelques signes avant-coureurs de sa future déchéance. Quelques signes avant-coureurs. En Jean 12, donc on est vraiment la semaine de la Pâque, il nous est raconté comment Marie, vous vous souvenez de cet épisode, qu'elle a pris un demi-litre de parfum, très cher, d'un nard très cher, et elle en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'est alors que vous vous en souvenez, Judas, il pose la question, mais attendez, avec le coût de cette offrande, on aurait pu, selon lui, l'offrir aux pauvres. Alors Jean, il nous explique que sous le couvert de cette proposition très honorable, Judas avait un attrait pour l'argent et même que parfois il en profitait même pour voler dans la bourse des disciples. Donc voilà, donc en fait c'est la seule, avant le fameux épisode de la trahison de Judas, c'est le seul épisode que l'on connaît sur Judas. C'est un épisode très court mais qui nous apprend déjà une chose. C'est que le péché dans nos vies, il arrive toujours par la petite porte, sans faire de bruit. Ça commence par tout doucement. Judas, il a commencé à un moment à remettre en cause ce qui se passait. commence par voler un œuf, puis un bœuf. On commence par regarder une simple vidéo un peu olé olé. On commence par mentir une petite fois. C'est pas bien grave. Le péché rentre toujours sans faire de bruit, par la toute petite porte, avant de prendre toute la place dans la maison. Et Judas n'a pas décidé du jour au lendemain de trahir Jésus. Cela a probablement germé progressivement, tout doucement. Et c'est d'actualité, mais de la même manière qu'il est beaucoup plus facile d'éteindre une allumette qu'un incendie de forêt, c'est malheureusement d'actualité, soyons vigilants à ces petits compromis que l'on peut faire, à ces signes avant-coureurs qui peuvent justement en dire long sur la suite. Mais c'est surtout la fin des évangiles qui nous parle de Judas. Et en Matthieu 26, on apprend que cet épisode avec le parfum là qui coûtait très cher, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et que Judas, n'en pouvant plus de voir tout cet argent gaspillé, dans la foulée est allé voir les prêtres pour leur livrer, leur vendre Jésus. Et tout content avec ses 30 pièces d'argent, Judas va donc ensuite chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Alors on connaît tous l'épisode dans le jardin de Gethsémané où Judas, entouré de gardes, arrive et fait la bise de manière toute innocente au Seigneur Jésus. Comme si Jésus n'avait pas compris ce qu'il était en train de faire. Ni une ni deux, Jésus est emporté par les gardes et nous sommes donc le jeudi de la semaine de Pâques. On peut se poser la question de pourquoi Judas a décidé de trahir Jésus. Pourtant, il avait passé 3 ans avec lui. Pourquoi il a décidé? Alors, est-ce que c'est simplement pour une question d'argent? Il était tout content d'avoir 30 pièces d'argent. Et est-ce que c'est pour des histoires d'argent? Est-ce que parce qu'il était déçu de Jésus? Il s'imaginait que Jésus, peut-être, allait être un messie glorieux, vainqueur, plus puissant, et que finalement, Jésus passe son temps à leur annoncer sa mort et sa résurrection. Alors, est-ce que Judas était déçu? On ne sait pas trop. Alors, on a 2 éléments malgré tout. Premièrement, Luc 22 nous dit que Satan était rentré dans Judas, tel un mistral qui rentre dans une forêt et qui attise des braises. Ça va être les décuples. À travers Judas, le Satan rentre dans Judas parce que voilà, le Satan veut, il y a une sorte de combat cosmique, j'ai envie de dire, du mal, qui veut s'opposer au plan parfait de Dieu. Mais bon, le comble de l'histoire, c'est qu'en fait, la trahison de Judas fait partie du plan parfait de Dieu. Ça, Satan, il s'est fait avoir à son propre jeu, parce que justement, le plan parfait de Dieu passait par la mort de notre Seigneur Jésus, mort déclenchée par la trahison de Judas. Donc, il a voulu empêcher le plan de Dieu, et manque de peau, il l'a réalisé. Un peu d'humour. Mais sans se rendre compte, voilà, c'est la trahison de Judas qui entraînera la mort de Jésus, à travers lequel des millions d'hommes et de femmes seront sauvés. Satan voulait arrêter le plan de Dieu, manque de peau, il y a participé. Mais deuxièmement, si Judas a été la cible de Satan, il n'est simplement pas il n'est pas pour autant une marionnette qui n'aurait fait que subir ce que Satan lui faisait. Il est pleinement responsable et c'est lui qui a choisi de livrer Jésus. C'est lui, c'est pas qu'une marionnette, mais un homme responsable de ses choix et de ses actes. Nous sommes tous responsables de nos choix et de nos actes, même si le péché est en nous, même si l'apôtre Paul dira « ce n'est pas moi qui vis, c'est le péché qui est en moi », malgré cela, nous sommes toujours, toujours, toujours responsables de nos actes. Et voilà pourquoi Jésus dira en Matthieu 26 « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, malheur à l'homme par lequel il va être livré. » Malheur à Judas, ce n'est pas une marionnette, c'est lui et lui seul qui a choisi de livrer Jésus. Donc voilà, en même temps c'est Satan qui est rentré dans Judas, mais en même temps c'est Judas qui est pleinement responsable. Voilà quelle trahison. Mais à la suite de ce baiser mortel, quelle va être la réaction de Judas? Il a chuté, il est allé voir les prêtres, il a gagné ses 30 pièces d'argent. Quelle va être sa réaction? Là on est dans le dernier tour de la course olympique et Judas vient de tomber. Qu'est-ce qu'il va faire? On est dans le dernier tour de la course olympique. Au début de Matthieu 27, on voit que Judas est pris d'un soudain remords quand il réalise la conséquence de sa trahison. Il réalise que Jésus est bel et bien en train d'être jugé et que sa mort est imminente. Judas essaie alors de retourner vers les prêtres pour leur rendre les 30 pièces d'argent. Tout comme il veut revenir en arrière. En informatique, on dirait qu'il veut faire CTRL-Z. Il veut revenir en arrière. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est là qu'on voit que les conséquences de nos actes ne sont pas toujours modifiables ou annulables. On ne peut pas revenir en arrière. Certaines conséquences ne sont pas annulables ni modifiables. Matthieu 27, Judas dit donc, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Et les chefs des prêtres répondirent, « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde. » Et Judas est triste, plein de remords, et réalisant alors la gravité et la réalité de sa trahison. Quelle est sa réaction ? Verset 5, « Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. » Sa tristesse l'a conduit à la mort. Il se suicide au lieu de demander pardon. Alors le pardon ne peut pas annuler certaines conséquences ou certaines réalités, mais il peut guérir les cœurs. Mais non, Judas, réalisant les conséquences de sa trahison, choisit la mort au lieu du pardon. Le dernier tour de la piste olympique se fera sans lui. Le dernier tour de la piste olympique se fera sans lui. Quelle tristesse et quel désespoir. Mais deuxième partie, regardons un deuxième disciple dont le début de l'histoire est finalement pas si éloigné que celui de Judas. C'est ça le comble. Je vous présente Pierre. Monsieur l'apôtre Pierre. Mais au début, son parcours, en fait, il est très très proche de celui de Judas. Pierre, il a été choisi par Jésus. Il était là au sermon sur la montagne. Il était là pour les paraboles. Il était là pour les miracles. Ils étaient côte à côte. L'un comme l'autre. Tout comme Judas, tout comme les autres. Et si Judas avait montré, avec l'épisode du parfum, quelques signes avant-coureurs, si j'ose dire, bah Pierre aussi, il en avait montré plusieurs, des signes avant-coureurs de faiblesse, si j'ose dire. Vous vous souvenez, on avait vu ça il y a 2 mois, Matthieu 16. En Matthieu 16, Jésus vient d'annoncer qu'il doit aller à Jérusalem, être mis à mort et rester le 3e jour. Et Pierre prend Jésus à part, et qu'est-ce qu'il lui dit ? Non, que Dieu t'en garde, Seigneur. Imaginez, même Judas n'a pas osé remettre en cause de manière si forte les paroles de Jésus. Et que va lui dire Jésus, arrière de toi Satan, ce n'est pas des pensées des hommes, mais c'est Satan. Alors cet épisode, il n'est pas vraiment à l'avantage de Pierre, mais bon, dans les évangiles, malgré tout, et c'est une différence avec Judas, on voit les épisodes où Pierre est proche du Seigneur, où il cherche à se soumettre à lui, à lui faire confiance, où il progresse dans sa foi. Par contre là, c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup des bons signes avant-coureurs. Mais on en a aussi des mauvais. Mais quoi qu'il en soit, arrivé à la semaine de Pâques, on est toujours sur le jeudi-vendredi de la semaine de Pâques, Pierre ne va pas être beaucoup plus à la hauteur que Judas. Alors c'est vrai, Judas a trahi Jésus de manière active, si j'ose dire. Il est allé voir les prêtres et tout ça. La trahison de Pierre, elle est un peu plus passive. Mais bon, en soi, elle est tout aussi terrible, si j'ose dire. Une fois Jésus arrêté, Pierre va par 3 fois renier connaître Jésus, alors que plusieurs le connaissent, le reconnaissent comme un disciple. 3 fois, il va dire, non, je connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Lui qui avait dit quelques heures plus tôt, même s'il me faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. C'est beau, c'est grandiloquent. N'empêche que 3 heures plus tard, il n'y a plus personne. Pierre n'est pas plus à la hauteur que les autres disciples. De nouveau, une trahison. De nouveau, une chute dans le dernier tour de la course olympique. Mais par contre, si on peut dire que Pierre diffère de Judas, c'est donc par sa réaction qu'il va avoir. Dès que Pierre réalise sa trahison, instantanément, il sort et il pleure amèrement. Sans attendre, tout de suite, Pierre se repent et comprend ce qu'il vient de faire. Si vous avez remarqué que Judas, il attend de comprendre les conséquences de son geste pour faire demi-tour. En fait, c'est quand il comprend que sa trahison va conduire à la mort de Jésus, qu'il essaye de faire demi-tour. Et ce qui lui fait faire demi-tour, c'est pas tant sa trahison, mais les conséquences de sa trahison. Pour Pierre, en fait, sa trahison n'aura pas de conséquences. Il va pas être, il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu, Jésus n'a pas été plus châtié ou quoi que ce soit. Donc au final, on pourrait dire que la trahison de Pierre, elle n'a pas eu de réelles conséquences. Pourtant, Pierre, il pleure amèrement, même s'il n'y a pas de conséquences gravissimes, si j'ose dire. Ce n'est pas les conséquences de son péché qu'il regrette, c'est son péché en soi. Ce n'est pas les conséquences. Par exemple, si vous êtes, qu'est-ce que vous regretteriez si vous êtes condamné pour vol dans un magasin? Est-ce que vous regretteriez d'avoir été pris, la main dans le sac? Ou alors simplement d'avoir volé? Peu importe que vous ayez été pris ou non. Il ne faut pas là. Il faut regretter le péché et pas seulement les conséquences du péché. Et Pierre, c'est bien ce qu'il fait, il regrette son propre péché, et à ce moment-là, il ne sait pas s'il y aura des conséquences ou non, mais il regrette cela. Et quoi qu'il en soit, même quand on chute, tel autour d'une piste olympique, il est toujours, toujours, toujours possible de demander pardon à Dieu. Toujours possible. Pierre l'a fait de suite, et sans attendre. Et le pardon de Christ envers Pierre va être total, complet. Et c'est Jean 21 qui nous raconte cela, et on voit comment Jésus, une fois ressuscité au bord du lac, vous vous souvenez de cet épisode, il pardonne et réhabilite Pierre en lui demandant trois fois, coïncidence, trois fois, m'aimes-tu? Oui, alors paie mes brebis et suis-moi. Quelle grâce de la part de notre Seigneur. Pierre ne peut pas annuler les paroles qu'il a dit ce soir, le jeudi soir autour du feu, lors de l'arrestation de Jésus, mais il peut néanmoins, aujourd'hui, se remettre debout par grâce et se remettre au service de son Dieu et de l'Église. Quelle grâce ! Sa tristesse l'a mené à la repentance et à la vie. Sa tristesse l'a mené de la repentance à la vie. Alors, entre Judas et Pierre, une même chute. Quasiment la même chute, mais deux destins complètement différents. Et la question qui nous est posée, c'est à qui voulons-nous ressembler ? Sauf si vous avez la prétention de faire des courses olympiques sans jamais chuter, mais tôt ou tard, on tombe tous, on est déjà tombés, nous tomberons tous. Et la question... À qui voulons-nous ressembler? Quand vous chutez, quand vous péchez, quand vous n'êtes pas à la hauteur du nom de Christ, quelle réaction voulez-vous avoir? À qui voulez-vous ressembler? À Judas? Ou à Pierre? Pour notre troisième partie, nous allons donc comprendre la clé qui a permis à Pierre de ne pas avoir le même destin de Judas. Cette clé, je l'ai déjà évoquée, c'est ce à quoi a mené leur tristesse respective. Dans le cas de Judas, sa tristesse l'a conduit à la mort, et dans le cas de Pierre, sa tristesse l'a conduit à la vie et à la repentance. Parce que, bon, encore une fois, c'est écrit sur les feuilles, mais c'est un verset de Corinthiens qui dit cela dans 2 Corinthiens. Et cette notion de tristesse, de repentance, l'apôtre Paul en parle en détail dans sa seconde épître aux Corinthiens. Et ça sera notre troisième partie. Souvenez-vous, hein, Paul et les Corinthiens, ça a toujours été une relation un peu compliquée. Hein. C'est pas une histoire... Souvenez-vous de la première épître et des nombreuses situations de débauche que dénonce l'apôtre Paul. Et de désordre, il avait dénoncé de manière ouvertement. Et quand on lit 2 Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, on comprend en fait qu'il y a eu une autre lettre aux Corinthiens, entre la 1 et la 2, et que celle que nous on appelle la seconde lettre aux Corinthiens, en fait c'est a priori la troisième de leur épître. Celle du milieu, la vraie seconde lettre, en fait on ne l'a pas, Dieu n'a pas estimé nécessaire qu'on en ait besoin dans la parole. Et dans cette fameuse lettre, on comprend que Paul avait été a priori encore plus sévère, encore plus dur envers ceux qui persistaient dans leurs péchés et leurs erreurs. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens, il dénonce des situations de remariage, de gens qui trompent leurs femmes, d'adultère, donc des situations Et a priori, donc déjà, si 1 Corinthiens, on trouve que ça avait été sévère, dans cette fameuse lettre, Paul avait été pris, a priori, encore plus sévère. Et c'est Tite qui avait joué le rôle de facteur entre Paul et les Corinthiens. Et comme Tite tardait à revenir de Corinthe, Paul ne savait pas si sa lettre avait porté du fruit. Nous, aujourd'hui, on envoie un message WhatsApp, si dans les 20 secondes qui suivent, on n'a pas la réponse, on panique. Là, le courrier, on parle de plusieurs mois sans nouvelles. Est-ce que le courrier a porté des fruits? Et donc, Paul, en fait, va aller à la rencontre de Tite, et ils vont se croiser en Macédoine, et Paul va avoir enfin, et après, donc, il va écrire cette troisième lettre aux Corinthiens. Et quand Paul rencontre Tite, il apprend plein de choses. Alors, premièrement, il apprend des mauvaises nouvelles, c'est que certains, profitant de son absence à Corinthe, en profitent pour remettre en cause son statut d'apôtre. Et chose un peu exceptionnelle, dans 2 Corinthiens, Paul va devoir défendre son ministère. Lui qui n'aime pas se mettre en avant, il va être obligé de montrer un peu les muscles et de montrer son CV. Bon, ça c'est voilà, mauvaise nouvelle, à Corinthe, certains le remettent en cause. Mais bonne nouvelle, et c'est ça le plus important pour nous, c'est que de nombreux Corinthiens ont enfin compris la réalité de leurs erreurs et de leurs péchés, et que maintenant ils se sont repentis et qu'ils font tout pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà ce que Paul apprend. Alors Paul se réjouit, et au chapitre 7, on va lire à partir du verset 8, donc 2 Corinthiens 7 à partir du verset 8. Regardez ce que dit Paul. Même si je vous ai attristé par ma lettre, donc la fameuse lettre entre les deux, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous ayez été attristé, mais que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. Et là est notre verset clé. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà la fameuse clé qui explique Judas et Pierre. La tristesse selon le monde et la tristesse selon Dieu. Une mauvaise tristesse et une bonne tristesse. Alors dans les deux cas, ça commence par la tristesse, et ça je pense que vous l'avez déjà peut-être expérimenté. Quand on réalise des fois son péché, sa faiblesse, sa nullité, quand on réalise les dégâts que peuvent faire nos paroles ou nos actes envers nos familles, envers nos collègues, envers notre église, envers les autres, parfois, on peut effectivement être triste et c'est une réaction légitime. Paul ne s'excuse pas d'avoir rendu tristes les Corinthiens. On a honte de soi et on peut même pleurer parfois de son propre péché. Peut-être que ça vous est arrivé. La question est, où cette tristesse nous mène-t-elle? Et ensuite, dans un premier cas, la tristesse du monde, la honte, la culpabilité nous mène à la mort. En effet, parce que le monde, il n'a pas de solution à nous proposer face à nos faiblesses et nos erreurs. Il est impossible de revenir en arrière. Effectivement, il n'y a pas de contrôle Z dans la vie. Que faire alors? La seule chose que le monde nous propose est de faire semblant que c'est pas grave, que le péché n'existe pas, que tout le monde est bon, que c'est pas grave. Mais à celui qui est réellement honnête et a pleinement conscience de ses fautes, le monde n'a que la culpabilité et le désespoir à proposer. Et Judas, dans un sens, l'a vécu à l'extrême. Judas l'a vécu à l'extrême. Mais dans le deuxième cas, la tristesse selon Dieu nous conduit non pas à la mort, mais à la vie et à la repentance. Par contre, le chemin entre la tristesse et la vie, il passe par la case repentance. Pour ceux qui jouent au Monopoly, c'est pas comme Monopoly où des fois on peut sauter certaines cases. Là, pour passer de la case tristesse à vie, il y a la case repentance et on peut pas passer directement par-dessus. La tristesse selon Dieu mène à la repentance, à ce profond regret de ce qui a été fait et à ce profond désir de ne plus jamais le refaire. Regretter et profond désir de ne plus jamais le refaire. C'est ça la repentance. Et c'est ce que les Corinthiens ont expérimenté, c'est ce que l'apôtre Pierre a expérimenté, et c'est ce que je nous souhaite à tous les uns les autres. Peu importe la chute que l'on fait, C'est ce que je nous souhaite de vivre à chaque fois. Mais entre la case tristesse et la case salut, il y a donc la case repentance, mais il y a aussi la case Jésus-Christ. Voilà les différentes cases par lesquelles il nous faut avoir, car c'est Jésus-Christ qui permet que la repentance produise la vie. Se repentir est nécessaire, mais encore faut-il que celui envers qui on se repent accepte cette repentance. L'histoire humaine est pleine de dictateurs, de rois, de chefs de gang, ou même celui qui essaie de se repentir, de demander pardon, il n'a pas de choix. Il y a certains... On a parlé récemment aux informations de la mafia corse. Je pense qu'avec les mafieux, même si t'as trahi un tel et compagnie, même si tu demandes pardon, je pense que ton sort, il est scellé. Dans un autre registre, qui se souvient de Jérôme Kerviel? 5 milliards, il a fait perdre 5 milliards à la Société Générale en 2008 avec des paris un peu risqués qu'il prenait dans son coin. 5 milliards. Lors de son procès en 2012, il a demandé pardon en pleurs à son ancienne hiérarchie. Est-ce que vous pensez qu'il a été réembauché? Dans le monde, la repentance ne sert à rien. Dans le monde, la repentance ne conduit pas à la vie, au salut. Il n'a pas été réembauché par la Société Générale. Or, si avec Dieu, entre la case tristesse et la case salut, il y a la case repentance, cette case repentance, il y a surtout la case Jésus-Christ, car c'est cette case-là qui nous permet d'avoir le pardon éternel. Pourquoi? C'est ce qu'on a fait à la Sainte-Seine tout à l'heure, c'est les chants qu'on a chantés, c'est le cantique attaché à la croix que nous avons chanté, c'est que Jésus nous offre le pardon, quoi, Dieu nous offre le pardon, la possibilité, non pas d'être réembauché par Dieu, mais d'être pardonné, adopté, accepté, réconcilié. C'est bien mieux qu'un CDI. Voilà ce que nous permet Jésus-Christ envers le Père. Puisqu'on est toujours dans la thématique argent et Monopoly, qui se souvient la case juste avant, la case départ au Monopoly? La case juste avant. C'est les bleus, là, celles qui coûtent cher. Rue de la paix. Avec Dieu, c'est pareil. Avant de prendre un nouveau départ, il faut faire la paix avec Dieu. Et cette paix nous est offerte en Jésus-Christ. On ne peut pas prendre un nouveau départ sans passer par la case rue de la paix en Jésus-Christ. En conclusion donc, et ça sera mes derniers mots, si vous aussi vous n'êtes pas toujours à la hauteur, si vous aussi vous arrivez de pécher, de chuter comme Judas, comme Pierre, comme les autres, si vous aussi votre propre faiblesse peut parfois vous faire déprimer, vous faire pleurer, comme Judas, comme Pierre. Certes, mais quelle est la réaction que vous voulez avoir? Quelle est la réaction que vous voudrez avoir? À qui voudrez-vous ressembler? À Judas ou à Pierre? À Judas ou à Pierre? La tristesse du monde produit la mort, tandis que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Avec Dieu, il est toujours, toujours, toujours possible de repartir à zéro, de prendre un nouveau départ, à condition de passer par la case repentance et par la case rue de la paix avec Jésus-Christ. Je finis par un autre verset de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, alors j'ai noté versets 17 et 18, mais j'ai oublié le chapitre, c'est dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, oui, la réconciliation. Bien joué, Noé. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Les choses sont nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Que Dieu nous donne de toujours savoir revenir vers lui autant de fois qu'il le refaudra. Que Dieu nous comble de sa grâce et de la paix qu'il veut nous offrir encore chaque jour en Jésus-Christ. Amen. Éternel, nous te remercions parce qu'effectivement, quand nous chutons, quand nous sommes tristes, quand nous sommes découragés par notre faiblesse et nos incapacités, quand nous chutons sur cette piste olympique, Seigneur, merci parce que cette tristesse peut conduire non pas à la mort, mais à la repentance et à la vie. Merci parce que en Jésus-Christ, tu as pourvu, tu fais que cette repentance est possible et conduit au salut. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu nous offres cette paix et tu nous permets d'avoir toujours un nouveau départ. Seigneur, enlève-nous la honte de revenir vers toi et donne-nous toujours l'honnêteté, le courage de revenir vers toi autant de fois qu'il le faudra. Merci pour ce Dieu de grâce et de paix que tu es. Merci pour ton amour infini. Amen.
Amen.